Bonjour, je vous remercie d'être venu encore aujourd'hui écouter un cours qui n'est pas facile, une pensée très délicate, mais qui me semble tout à fait passionnante en tout cas. Nous avons vu lors de la leçon précédente la critique systématique à laquelle Nakamoto, mon Dieu, Tominaga Nakamoto soumet l'histoire du bouddhisme et de ses doctrines. L'étude minutieuse qu'il en a faite dans les propos au sortir de la concentration, le Shutsujo Kogo, qui s'appuie manifestement sur des lectures détaillées et à laquelle il renvoie dans son opuscule du vieillard, le Okina no Fumi, lui a servi de terrain d'expérimentation pour mettre au point sa grille réflexive sur l'évolution des religions. C'est le bouddhisme, n'est-ce pas qui. Il voudra retrouver les mêmes constantes dans les deux autres, c'est-à-dire le confucianisme et le shinto. Nous allons donc voir aujourd'hui comment il reconsidère l'histoire du confucianisme et du shinto à la lumière de sa découverte. Je reviendrai peut-être à la fin sur la chronologie exacte, on ne la sait pas, on ne peut que la supputer. Mais il y a un certain esprit de système dans cette critique, mais elle repose sur un examen des sources, en particulier bouddhiques, qu'il puise directement dans la scolastique, et essentiellement dans la scolastique du Tendai, comme je vous l'avais dit. Il considère donc comme un donné le système qu'il critique, sans chercher à le remanier historiquement. Il a un esprit critique, mais quand même, il se fonde sur la tradition. C'est un reproche qu'il est loisible de lui faire après 3 siècles de recherche historique sur les religions. Mais il nous faut plutôt apprécier la nouveauté de son approche pour son époque. Il ne rejette pas ses sources, mais les réinterprète dans un nouveau système qu'il veut rationnel. Voyons donc à présent comment il ajuste sa grille critique aux 2 autres systèmes, la grille critique du bouddhisme qu'il va appliquer au confucianisme et au shinto. Ici encore, Nakamoto se livre en quelques lignes à cet exercice de haute voltige intellectuelle dont il se délecte et fait un tour d'horizon complet de l'évolution non seulement du confucianisme, mais aussi du taoïsme de l'époque du maître, c'est-à-dire de Confucius, voire avant, jusqu'au Japon de son époque. Bien entendu, il ne saurait être question d'en faire une exégèse détaillée. Nous ne donnerons que les précisions indispensables à la compréhension, sinon il faudrait passer la journée, n'est-ce pas ? Alors, comme d'habitude, je vous donne les passages que je reprends d'un site d'internet qui reprend à peu près telle quelle une bonne édition. Je l'ai remanié un peu pour simplifier la lecture, mais encore une fois, ce n'est pas pour lire les textes, c'est pas vous ça. Il suffit de les lire, les japonisants qui sont ici pourront les retrouver très facilement sur l'internet en tapant Shutsujo Kogo et Okina no Fumi. Donc, cette première citation. De même, Confucius, s'appuyant sur les préceptes de Yao et de Shun, n'est-ce pas, Shun en chinois et Gyo et Shun en japonais, et prenant pour modèle les rois Wen et Wu, c'est-à-dire les Bun et Bu en japonais, exposa la voie de la légitimité royale, Odo, je vous renvoie aux travaux de M. Van der Merch d'ailleurs à ce sujet, qui est en réalité, alors voici la partie importante, qui est en réalité un dépassement des idées de son époque, lesquelles ne prenaient en compte que la voie des 5 hégémons, Gohaku, n'est-ce pas, les 5 grands États qui se partageaient le pouvoir à l'époque, tels Huan de Qi et Wen de Qin. Bon, laissons passer tout ça, mais vous voyez la partie importante, c'est un dépassement. Sono ue o idetaru, littéralement, qui sortait au-dessus. Udetaru mononari. Nakamoto part donc de Confucius, comme il est normal, en rappelant qu'il s'appuyait sur la tradition des deux derniers des souverains mythiques, n'est-ce pas, les Sanko Gotei, bon, ça aussi, ce sont des choses très connues, vous pouvez regarder n'importe où. Donc, Gyo et Shun sont les derniers de cette série, qui auraient régné durant le 3e millénaire avant notre ère, en tout cas pour ces souverains. Shun, ayant cédé son trône à en japonais, Yu, n'est-ce pas, qui fonda la dynastie semi-historique des Xia. Et là, nous commençons à entrer dans l'histoire chinoise. Les rois Wen et Wu, au nom fort symbolique, n'est-ce pas, Wen, c'est le roi lettré, Bu, c'est en japonais, Bun, donc c'est le roi lettré. Bu, c'est le roi des armes. Et vous connaissez la locution Bunbu qui fera toute l'histoire de la culture chinoise et japonaise. Et l'on sait que toute la vie et les efforts de Confucius furent consacrés à rétablir la voie roi. Alors, donc, ils fondèrent la dynastie des Zhou, n'est-ce pas, des Shu, autour du XIe siècle avant Jésus-Christ. Et l'on sait que toute la vie et les efforts de Confucius furent consacrés à rétablir la voie royale de ses souverains dans la Chine de son époque, Confucius ayant vécu les dates traditionnelles, bien sûr, c'est de moins 551 à moins 479. Donc cela constituait un dépassement des gouvernements arbitraires, les hégémons, n'est-ce pas, des cinq royaumes qui se partagèrent l'empire avec l'affaiblissement du pouvoir des Zhou, n'est-ce pas, cette partie qui va de la fin des Zhou jusqu'à jusqu'au Qin, n'est-ce pas. Donc le duc de Qi, Huan, qui est mort en moins 653, et Wen de Qin, n'est-ce pas, du royaume de Qin, qui serait mort en moins 628. Ce sont des représentants exemplaires de ce que Confucius rêvait d'effacer au moment où s'ouvrait la sombre période dite des royaumes combattants, que l'on date souvent de moins 475, c'est-à-dire le début, c'est-à-dire presque exactement à la mort de Confucius. Et elle finit évidemment avec le règne du premier empereur des Qin, Qin Shi Huangti en japonais, Qin Shi Huangti, en moins 221. On voit donc le mouvement qu'esquisse Nakamoto. Confucius, se référant au roi modèle des Zhou, eux-mêmes en prise directe avec les préceptes des empereurs légendaires, pour dépasser, n'est-ce pas, son Weiyi, pour dépasser le présent immédiat et son cortège de misères politiques. C'est donc le même mouvement que celui du Bouddha historique Shakyamuni, qui avait pris un puits, nous l'avons vu, pour ainsi dire, sur les Bouddhas d'un passé immensément lointain, pour dépasser les maîtres d'erreur qui le précédaient immédiatement, les Gedo, n'est-ce pas, les Gedoshi, ou on dit aussi Rokushi Gedo, qui le précédaient immédiatement dans l'histoire indienne, tels que les textes bouddhiques permettaient de la restituer. De façon très intéressante et à première vue, à la différence du bouddhisme, Nakamoto esquisse en même temps que l'apparition de Confucius celle des autres maîtres de l'époque, ceux qui forment les 100 écoles, n'est-ce pas, les Hyakka, Shoshi Hyakka, les maîtres des 100 écoles, vous savez que c'est la formule qui avait été reprise lors d'une campagne lancée par Confucius, par Mao Tse-tung en 1958, n'est-ce pas, que 100 fleurs fleurissent, que les 100 écoles s'épanouissent. Et vous savez ce qu'il en est devenu. Donc, alors évidemment, il fait ça pour les mettre en parallèle, semble-t-il, avec les maîtres hétérodoxes du bouddhisme. Donc les 100 écoles d'un côté, les maîtres hétérodoxes de l'autre. Alors, il continue donc, les contemporains cette fois, ou ceux qui ont suivi Confucius, mais qui ne sont pas dans le confucianisme. Bon, ça sera refaire l'histoire de la philosophie chinoise ancienne, je ne vais pas me lancer là-dedans, d'autant plus que nous avons Han Cheng pour le faire. Donc, ce sont des noms qui vous sont familiers. Mais, donc, ensuite, Mozi, n'est-ce pas, vénérant tout autant Yaoi Shun que Confucius, mais exaltant en outre la voix des Xia, donc le plus ancien que les Zhou, fut un dépassement de l'attachement de Confucius à Wen et à Wu. Donc Nakamoto illustre ainsi son idée de dépassement en faisant remonter Mozi, dont l'école fut la rivale des confucianistes, au souverain des Xia, directement issu de Yu le Grand. Vous voyez, encore une fois, il dépasse dans le passé pour dépasser dans le présent. Ensuite, la citation d'en dessous, les idées de Yang Zhou sur la voie impériale et sa vénération pour l'empereur jaune, donc l'empereur mythique aussi, furent un dépassement de l'enseignement de Confucius et de Mozi, donc, sur la voie royale. Et Yang Zhou est un penseur du IVe siècle qui est tenu par Mencius pour aussi dévastateur que Mozi. Vous voyez, son égoïsme se voyez, alors que Mozi prêchait, enfin, l'une de ses doctrines les plus connues, c'est ce qu'on appelle le Ken-ai, n'est-ce pas, en japonais, disons l'amour universel, l'amour qui englobe inclusif, si on peut dire, et alors que la pensée de Yang Zhu est souvent résumée par la locution Weiwo en chinois, qui est en japonais Iga, n'est-ce pas ? C'est la dernière ligne. Donc son égoïsme, en effet, c'est cet égoïsme que l'on voit résumé dans la formule Iga, est resté comme un cliché dans nombre d'écrits de l'époque, aussi bien confucianistes que taoïstes. Le paragraphe suivant énumère presque pêle-mêle, on ne va pas s'y arrêter, enfin vous voyez, bon, c'est un peu imposant comme ça, mais énumère presque pêle-mêle quelques grands noms des écoles de pensée des royaumes combattants. Il faut voir dans cette énumération un peu débridée une volonté d'inclure tout ce qui fait le prestige de la pensée chinoise classique dans sa grille critique, d'inclure dans la grille critique de Nakamoto tout ce qui fait cette pensée chinoise. Donc ensuite, vous avez Xu Xing qui met en avant, Kyoko en japonais, mis en avant les Shannong, c'est-à-dire le dieu de l'agriculture ou les tenants de l'école de l'agriculture, il y a une ambiguïté. Et ensuite, vous voyez évidemment Zhuangzi, Liezi et leur école prônèrent les souverains Wuhai, Godian ou l'état de Cao, ce qui était encore un surdépassement. Et vous voyez, sono ue no ue o idetaru mononadi, un surdépassement de leurs prédécesseurs. Donc, de façon assez surprenante, Nakamoto expédie les grands classiques du taoïsme en quelques mots. Là, vous voyez, Zhuangzi, Liezi, c'est très important. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une comparaison des trois doctrines. Et dans la nomenclature chinoise, les trois doctrines, c'est le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Et le taoïsme, voilà comment il est expédié. Et il les remarque seulement comme exemple pour les exemples qu'il fournit à sa thèse sur le dépassement. Mais nous comprenons bien la raison de cette accumulation. Il présente en quelque sorte Confucius comme une réplique de Shakyamuni qui avait dépassé les hétérodoxes indiens en se propulsant au-delà d'eux. Il revient donc à son sujet principal ici. Je vous donne cette citation un peu imposante, mais ce sont là des doctrines hétérodoxes, voyez, itin, c'est hérétique même. Pour revenir à la voie de Confucius, après cette digression, il revient cette fois dans le courant de Confucius, voyez, il fait comme avec Shakyamuni, après avoir esquissé ce qui se passe autour de Confucius, il va dans le confucianisme à proprement parler. Pour revenir à la voie de Confucius, nous constaterons qu'elle est divisée en 8 branches, n'est-ce pas ? Wakarete yatsu tonaru. Tout se réclamant de l'enseignement de Confucius en se dépassant mutuellement, mina sono, il continue, sono eo, ide aitaru, n'est-ce pas ? Tout se dépassant mutuellement. Tout se réclamant de l'enseignement de Confucius en se dépassant mutuellement. L'affirmation, alors là, je n'entrons pas dans les détails, c'est simplement pour avoir une idée de comment Nakamoto mène son raisonnement. L'affirmation de Kaozi, selon laquelle la nature humaine n'est ni bonne ni dépourvue de bonté, constitue un dépassement de Shuzi, selon qui la nature humaine comporte bien et mal. L'opinion sur la bonté de la nature humaine exprimée par Mencius est d'un dépassement de celle de Kaozi. Et Xunzi, qui soutenait qu'elle était mauvaise, constitue un dépassement des idées de Mencius. Zhangzi, bon là on sort du Confucius, Zhangzi rédigea le livre de la piété filiale qu'il fit passer pour les dialogues de Sangzi et y prôna la piété filiale. Il abandonna ainsi les différentes voies pour tout ramener à cette dernière vertu. En appelant donc les non-confucianistes hétérodoxes, il les remet dans sa grille de développement parallèle au bouddhisme et s'appuie sur cette analogie de structure pour décrire l'évolution historique de l'enseignement de Confucius au fil des siècles et des nouvelles écoles, comme celle du bouddhisme, avec de nouveaux penseurs qui se réclament, avec le terme « kagotsuku », n'est-ce pas, « kagotsukeru » que nous avons déjà vu à plusieurs reprises, qui se réclament d'une compréhension plus authentique de la pensée du maître et en faisant le prétexte de la création de leur propre école et doctrine. Donc rien de nouveau sous le soleil de la voie, n'est-ce pas ? N'oubliez pas que soleil, dans une expression japonaise pour soleil, tento veut dire la voie du ciel. Nous ne pouvons entrer dans le détail des noms et des doctrines de cette esquisse éclair de l'histoire du confucianisme, mais nous en comprenons bien le mouvement. Nakamoto choisit de centrer son esquisse sur quelques notions fondamentales, en particulier la nature humaine et la piété filiale, présentant cette dernière comme l'aboutissement formel de l'évolution ancienne du confucianisme et le dépassement de toutes les voies. Parce que c'est évidemment aussi l'une des valeurs confucianistes qui est la plus implantée au Japon. Cela lui permet de porter l'estocade au néo-confucianisme, donc l'école des Song, dont je vous l'ai dit, qui s'est développée à partir du à la fin du XIIe siècle et qui est venue au Japon autour de l'an 1600 pour constituer la voie principale, n'est-ce pas, des études confucianistes et officielles même. Cela lui permet donc de porter l'estocade au néo-confucianisme, puis aux écoles confucianistes japonaises. Ici encore, en quelques mots. Les confucianistes des Song, ne s'apercevant pas de cette évolution, étaient persuadés de l'unicité de l'enseignement depuis les origines. Alors que plus récemment, au Japon, Itō Jinsai a soutenu que Mencius seul fut dans la droite ligne de Confucius, tous les autres enseignements étant hérétiques. Tandis que Sōrai, donc Ogyū Sōrai, nous avons déjà vu ces noms, affirmait que la voie de Confucius remontait directement à celle des premiers souverains. Zusu et Mencius s'y étant en fait opposés. Toutes ces opinions sont éminemment fautives. Mina, je pense qu'il faut dire, Oinaru, Mizokonai no machigai taru koto domo nadi. Vous voyez cette vivacité des penseurs d'Edo, on retrouve un peu déjà ici, on retrouve un peu de ce que l'on verra chez Norinaga plus tard, n'est-ce pas, on n'est pas tendre avec ses adversaires. Il reproche donc tout d'abord aux néo-confucianistes chinois et à leurs successeurs d'avoir ignoré les développements historiques de l'école et de l'avoir, à tort, considéré comme unique et cohérente en sa doctrine. Pour ce qui est du Japon, les deux noms qu'il mentionne sont les deux représentants de ce que l'on peut désigner, pour faire court, de ce que l'on peut désigner, pour faire court, comme le mouvement Kogaku, ou les études antiquisantes, n'est-ce pas, Inishie no Gaku, les études sur l'Antiquité, qui sont surtout réunies dans leur critique du néo-confucianisme japonais. Itō Jinsai et Ogyū Sōrai, chacun à sa façon, veulent dépasser le néo-confucianisme pour revenir à une étude, disons, directe des textes. Et en particulier chez Ogyū Sōrai, qui est un vrai philologue, dont on peut dire qu'il a fait sur la langue chinoise antique ce que les Kokugakusha faisaient sur le japonais. Il y a vraiment une symbiose entre les deux courants de ce point de vue, dans la méthode. Nakamoto retrouve chez eux le même mouvement historique de pseudo-retour à une pureté originelle, pour conclure en fin de compte qu'ils sont tous dans l'erreur, n'ayant pu analyser avec justesse l'évolution des doctrines. Il renvoie à son œuvre de jeunesse qui exprimait déjà les mêmes idées. Vous savez, c'est la deuxième citation, n'est-ce pas ? Konoshimatsu o shiran tomo waba. Alors, Setsuhei, le plus souvent les gens lisent Setsuhei, Seppei, peut-être Bun o Fumi o Mirubeshi, n'est-ce pas ? Je vous ai dit, on n'a plus ce texte, il l'avait écrit très jeune, et c'était sans doute son galop d'essai qu'il avait fait sur le confucianisme. Je reviendrai peut-être là-dessus à l'occasion, mais je le dis déjà maintenant, n'est-ce pas ? Il a certainement fourbi ses armes avec le Setsuhei, mais c'est dans le bouddhisme qu'il a trouvé la grille parfaite qui va expliquer pour lui l'histoire de développement de ces doctrines qu'il va appliquer aux trois religions. Mais cela nous invite naturellement, mais ce n'est encore qu'une digression, dont je vous prie de m'excuser, à nous interroger sur la genèse du système de Nakamoto. Sa notoriété repose essentiellement donc sur sa critique savante du bouddhisme. Mais il semble évident à suivre la chronologie, puisque le Setsuhei daterait de 1730, n'est-ce pas ? Certes très réduite de son œuvre, que c'est sur l'histoire du confucianisme qu'il se soit fait les dents, pour ainsi dire. Et si les deux ouvrages dont nous disposons, le Okina no Fumi et le Shutsujo Kogo, donnent à première vue la primauté au modèle bouddhique d'évolution doctrinale tel que notre auteur l'a institué en grille de lecture, il est probable qu'il soit né au sein de son milieu académique et familial, peut-être même en réaction, au début, contre la mainmise de son frère aîné sur l'école. C'était peut-être une révolte d'adolescence qui est passée par la critique du confucianisme. On comprendrait mieux alors ce qu'a de profondément systématique cette déconstruction d'un édifice doctrinal qui était aussi le fondement d'une autorité qui lui était insupportable, une autorité familiale. Si nous admettons l'hypothèse possible, d'après Kato Shuichi, n'est-ce pas, selon laquelle l'ouvrage, le Setsuhei, aurait été rédigé alors que l'auteur n'avait que 15 ans, nous serions peut-être davantage justifiés en apprécier le caractère de réaction émotionnelle. Mais encore une fois, il est clair à partir de l'Okina no Fumi comme du Shutsujo Kogo que Nakamoto a décidé d'inverser le rapport entre les deux critiques et d'établir la grille bouddhique comme archétypique. C'est dans le bouddhisme, dans l'évolution de la pensée de l'histoire du bouddhisme, qu'il trouve son modèle. Après ce démontage du processus historique qui explique l'évolution du bouddhisme et du confucianisme selon un processus dont il faut chercher les ressorts dans les ambitions personnelles des maîtres successifs, avides de se ménager une place dans l'histoire des religions, ce que j'appelle l'histoire des religions, donc un démontage qui finissait à chaque fois sur une conclusion péremptoire, n'est-ce pas ? Tout cela n'est qu'absurdité fondée sur un malentendu pour le bouddhisme, et toutes ses opinions sont éminemment fautives pour le confucianisme. L'on se doute que Nakamoto ne risquait pas de s'attirer les bonnes grâces des représentants institutionnels ou des défenseurs individuels de ces deux piliers de la société japonaise contemporaine. Nous savons certes qu'il n'avait pas froid aux yeux dès son plus jeune âge, mais nous savons aussi qu'il était trop intelligent pour braver des forces qui le dépassaient de beaucoup. Marginalisé dans sa famille et dans l'institution, comme nous l'avons vu, n'oubliez pas que sa mère avait dû quitter la maison de son mari, qui s'était remarié, et lorsque le fils aîné a pris la... Lorsque le fils aîné a pris la succession de l'affaire familiale et de l'académie qu'il sponsorisait en quelque sorte, eh bien ils ont dû déménager, se réinstaller ailleurs, toujours dans des conditions qu'on peut imaginer beaucoup plus précaires. Donc, il était marginalisé dans sa famille et dans l'institution, et surtout, il était malade, incurable, comme nous l'avons vu, comme beaucoup de gens de son époque. Et c'est la maladie qui va l'emporter à 31 ans. Il a donc recours à son stratagème favori, où il fait usage d'un procédé courant dans les œuvres philologiques, philosophiques et scolastiques, celui des notes marginales, qui se présentent donc comme des interventions directes de l'auteur dans un texte qui n'est pas de lui. Mais nous voyons donc dans cette fiction, où l'auteur se tempère lui-même à travers le jeu des masques successifs, encore une fois, qu'il prend en tant qu'annotateur de ses propres opinions déguisées, ses opinions provocantes désamorcées sous couvert de glose. Nous allons le revoir tout de suite, mais nous avons vu la dernière fois, c'est un procédé constant. Nakamoto y a recours dès le début, et nous avons vu aussi que ses préfaciers jouent délibérément sur cette ambiguïté. Vous vous souvenez que les préfaces que nous avons vues au Libelle du Vieillard, l'Okina no Fumi, jouent avec le lecteur. Le vieillard est-il le Nakamoto ou Nakamoto est-il le vieillard? Sont-ils différents? En tout cas, leurs idées ont l'air de se ressembler. Mais elles sont un peu. Et Nakamoto fait semblant donc de gloser les propos du vieillard comme si ce n'était pas son œuvre. Il échapperait à tout reproche, mais ce serait prêter une bien grande naïveté aux forces sociales environnantes que de penser qu'elles étaient dupes. Rappelons que l'Okina no Fumi, le libelle du vieillard, est resté sous le boisseau pratiquement de sa rédaction, donc jusqu'à l'époque moderne. Je reviendrai sur l'histoire de la rédaction, mais on peut penser... On a deux dates. Nous avons deux dates avec les préfaces, n'est-ce pas ? 1738 pour la préface que Nakamoto lui-même aurait écrit. Donc 1738, il aurait 23 ans, n'est-ce pas ? Et 1744 pour les deux premières préfaces. Et 1744, comme nous le verrons, c'est aussi la date de la préface du Shutsujo Kogo. Alors donc c'est à ce moment-là, sa rédaction est située entre ces deux-là, mais donc de sa rédaction donc jusqu'à l'époque moderne, contrairement au Shutsujo Kogo, Et donc le libelle n'a pas circulé, semble-t-il, entre ces deux. Ce n'est qu'à l'époque moderne qu'il est réédité, et avec une postface d'ailleurs de Naito Konan, dont vous avez mort en 1934. Vous voyez qu'on est encore dans l'histoire toute récente. Et Naito Konan découvre le texte et le fait éditer, et en donne une préface où il parle de l'originalité de cette pensée. Alors, le fait qu'il ait été resté gardé sous le boisseau est-il dû au décès prématuré de l'auteur et à la pusillanimité de ses disciples et amis, n'est-ce pas ? Cela est une toute autre histoire. Revenons donc aux annotations de Nakamoto lui-même. Alors, voici comment il tempère sa présentation du confucianisme. Encore une fois, c'est toujours en deux parties. Il tempère et puis après il dit « mais si c'est vrai, eh ben, c'est pas très bien ». En tenant de tels propos, le vieillard veut dire que l'enseignement de Confucius sur la voie royale et l'inspiration qu'il retire de l'exemple des rois Wen et Wu ont pour raison son inquiétude à l'égard de la vénération exclusive de l'utilitarisme, n'est-ce pas, Kōri, qui caractérise la voie des cinq hégémons, des cinq royaumes concurrents de l'époque, et devant cette course à la fausseté. Il ne s'agit certes pas d'une volonté expresse de dépasser ses prédécesseurs. Vous voyez, il nie Wazato Takumite Sonoue Oeiden To Ni Wa Arazaru Beshi. Il contredit ce qu'il vient de dire sous un autre nom. Donc, Nakamoto rectifie la véhémence des propos du vieillard en prêtant à Confucius, l'opinion traditionnelle, une réelle préoccupation morale devant la décadence des penseurs de son temps, ce qui est bien sûr un retour à l'orthodoxie. Et nous voyons donc l'auteur faisant mine de nier dans la dernière phrase sa propre découverte sur le dépassement. Donc, contrairement à l'ordre du texte, Nakamoto commence par neutraliser, si je puis dire, la critique du confucianisme avant de passer à celle du bouddhisme, qui vient à la deuxième citation. Aurions-nous là un indice involontaire de la chronologie réelle de la formation de ces idées ? Contentons-nous de relever le fait sans plus y insister et voyons ce qu'il nous dit du bouddhisme. De même, lorsque Shakyamuni prend pour modèle les six bouddhas du passé et prêche la délivrance du cycle des existences, c'est parce qu'il déplore que les maîtres hétérodoxes qui l'ont précédé ne fussent pas sur la voie de la vérité. Là encore, vous voyez, il dit Shinjitsu no Michi, mais que ça pourrait se dire aussi Makoto no Michi, n'est-ce pas ? Donc je ne reviens pas sur ce terme fondamental. Donc là encore, nul souci conscient de dépasser autrui. Et il reprend exactement la même expression que tout à l'heure. Donc il n'y a pas de course à l'originalité. Le Bouddha, comme Confucius, ne se préoccupait que de rectifier les erreurs de son temps et ne cherchait pas davantage à innover. Remarquons que Nakamoto utilise exactement le même schéma pour les deux fondateurs. Il cherche, à l'évidence, à élaborer un système applicable à chacune des trois doctrines, même quand il n'entend pas les critiquer, mais souligner leur sincérité. Et cependant, ses propos conciliants sont considérablement remis en question, les deux ensemble, vous voyez. Donc il a tempéré et maintenant il revient à la charge. Et si effectivement, Moshimo Mata, ainsi que le prétend le vieillard, il s'agissait d'artificielles tentatives de dépassement d'autrui. C'est encore une fois la même expression qu'il vient donner. Il dit, ce n'est pas ça. Takumite, wazato takumite, ce n'est pas ça. Et si effectivement, ainsi que le prétend le vieillard, il s'agissait d'artificielles tentatives de dépassement d'autrui, alors si c'était ça, qu'il s'agisse de Confucius ou de Shakyamuni, elle ne mériterait nullement que l'on s'y attarde. Minatoru ni tarazanu mono to yubeshi, même pas la peine de les prendre, n'est-ce pas ? C'est à rejeter, c'est à mettre à la poubelle. On voit qu'il est difficile de saisir la pensée de l'auteur à travers ses pirouettes insistantes. Disons plutôt que nous voyons très bien, que nous pensons voir très bien la position de l'auteur et que ses tentatives de diversion relèvent plutôt du jeu intellectuel que d'une véritable politique d'autoprotection. Ce qui est une idée qui a été avancée plusieurs fois par des lecteurs et commentateur. Donc, c'est la lecture générale. En tout cas, nous voyons que cette dernière phrase reste dévastatrice si on la relie directement au texte du vieillard qui précède, en sautant par-dessus les remarques marginales lénifiantes que Nakamoto vient de faire. Voyons comment le vieillard poursuit avec son analyse de l'évolution historique du Shinto, dont il divise l'évolution en quatre grandes étapes. Quelques-unes de ses idées sont fort intéressantes. Et vraiment, enfin, il y aurait beaucoup à dire, mais je vais voir. Alors, pour en venir, alors j'ai insisté un peu, mais c'est quand même Shinto Totemo, n'est-ce pas? Totemo, Toitemo. Alors, je traduis par, pour en, c'est peut-être un peu plus fort que le japonais, mais l'esprit y est. Pour en venir à la prétendue voix des dieux, enfin, quand on prétend parler de la voix des dieux, pour en venir à la prétendue voix des dieux, ce sont les gens de l'époque médiévale, Chūkō, qui la firent passer pour remontant aux âges anciens de l'époque des dieux. C'est Jindai no Mukashi ni Kakotsukete. Encore une fois, cette formule Kakotsuku, qui est vraiment s'arroger l'autorité de quelque chose d'autre, prendre comme prétexte. Alors, ce qui est très intéressant, là encore, on a encore une fois le dialogue wakan, n'est-ce pas, sino-japonais. Ce Kagotsuku japonais, qui est très expressif, va être remplacé par un autre mot sino-japonais beaucoup plus kataku, n'est-ce pas, kataku, donc qui littéralement c'est-à-dire confier sans remettre à quelqu'un, confier telle ou telle mission à quelqu'un, n'est-ce pas? Et on voit que c'est utilisé exactement dans le même contexte, c'est-à-dire que les deux notions sont liées pour lui en japonais et en sino-japonais. Évidemment le kataku est un mot beaucoup plus noble, n'est-ce pas, évidemment, comme c'est sino-japonais. Mais le kagotsuku, c'est se cacher derrière, prendre prétexte de ce n'est pas du tout élogieux, n'est-ce pas? Donc, alors, Jindai no Mukashi ni Kakotsukete, ça sera kataku en chinois, en sino-japonais. Donc, ils la firent passer pour remontant aux âges anciens de l'époque des dieux et lui donnèrent le nom de voix du Japon afin de dépasser Yamato no Michi ou Nippon no Michi Tonazuke, et lui donnèrent le nom de voix du Japon afin de dépasser le confucianisme et le bouddhisme. Nous voyons ici une affirmation qui ne manque pas d'audace, non seulement dans le Japon d'Edo, mais dans le Japon de toujours. En présentant le Shinto comme une réponse locale à la venue dans l'archipel des doctrines continentales, et donc postérieure à ces doctrines, Chūki en fait véritablement un artefact qui doit être considéré comme tel et non pas comme une voie divine, et qui plus est, un artefact largement postérieur. Vous voyez l'audace. À cette idée déjà audacieuse, voire scandaleuse, il en ajoute une autre fort intéressante. Alors, c'est un peu technique, mais en même temps, vous allez voir que les conséquences sur le Japon et le Shinto sont graves, je pourrais dire. De même qu'au temps de la création, que ce soit avec les divinités. Vous avez ici le temps de la création, c'est ce que je traduis par Jibun. Le création n'est pas là, mais on peut le mettre entre parenthèses. Pas. Mais que ce soit avec les divinités Abhasvara, littéralement les divinités dont on pourrait dire son et lumière, n'est-ce pas, je vous expliquerai ça dans un instant, les divinités Abhasvara en Inde ou avec l'homme primordial Pangu en Chine, il n'était pas question d'une voie particulière, bouddhique ou confucéenne, et que les deux furent fabriqués plus tard consciemment et à titre provisoire. De même, le prétendu Shinto, la voix des dieux, donc, ne saurait-il remonter à l'antique époque des divinités? On va voir comment s'articule cela, cette idée avec l'idée de la mythologie japonaise, mais vous voyez qu'il n'y va pas par quatre chemins. Il s'agit encore une fois d'une tentative d'unification des trois grilles d'évolution des doctrines, en présentant pour les trois une sorte de période mythologique qui échappe à ces trois doctrines, qui reconnaissent chacune une époque des dieux qui échappe, elles, à leur construction postérieure. Relevons qu'ici, Nakamoto emploie la locution Kalini, vous voyez, Kalini tsukuri de taru koto, Kalini tsukuri de taru koto domo nareba, n'est-ce pas ? Qui veut dire donc provisoire, le provisoire ou le circonstanciel, et que c'est une notion bouddhique. N'oubliez pas, j'en ai parlé plusieurs fois, chaque fois que vous auriez dans un texte japonais Kalini, que souvent les traducteurs traduisent sans faire attention, provisoirement et tout ça, ça renvoie à l'idée bouddhique. Je ne dis pas chaque fois, si vous le trouvez évidemment chez Murakami Haruki, ça ne sera sans doute plus comme ça, mais dans les écoles, dans les textes, nous l'avons vu chez Saikaku l'an dernier, n'est-ce pas ? C'était manifeste. Ça renvoie à cette idée du gongen, n'est-ce pas, de l'avatar, de ce qui est provisoirement installé dans la réalité phénoménale, donc qui n'est pas réelle, pour aider les gens. Hein. Ça, c'est relié tout à fait à l'idée de Hoben que nous avons vu et que nous reverrons. Donc l'expédient salvifique bouddhique. C'est une notion d'abord bouddhique et ensuite. Qui s'est répandu dans la pensée japonaise. Mais vous voyez que Nakamoto l'utilise ici. Et n'oubliez pas qu'il l'a fait. Nous avons vu tout à l'heure, enfin, je vais le redire là-dessus, tout à l'heure nous avons vu Shinjitsu, n'est-ce pas ? Jitsu, c'est le contraire de Kali. N'est-ce pas ? Donc, le kari s'oppose au vrai authentique qui est makoto. Makoto, donc le makoto no michi, la voie authentique, la voie de vérité, la voie véritable de Nakamoto qui sera reprise par Norinaga et en réalité est fondée sur ce dialogue makoto et kari qui vient tout droit de l'idée des deux vérités bouddhiques. Je l'ai dit, mais je le redis encore. Donc, les deux doctrines continentales apparaissent donc comme des constructions a posteriori, provisoires et provisionnelles, sur un fond préexistant, qui est le fond mythologique. Nous aurons, je l'espère, l'occasion de revenir plus tard sur les incursions mythologiques d'Atsutane, telles que notre ami Yanaga Nobumi, je vous donnerai les références en temps utile, en a traité dans un article récent. Mais nous pouvons voir ici que Nakamoto se livre en un éclair, selon son habitude, à un travail de mythologie comparée, cette fois riche d'intuition, et qui, dans une certaine mesure, accorde une possible vérité au Shinto, malgré ce qu'il vient d'en dire. Ce n'est pas au hasard qu'il choisit les divinités dites Abhasvara, n'est-ce pas, les Kōnten, littéralement dont la voix est lumière, c'est-à-dire qu'au lieu de parler par des sons, il parle par des émissions de lumière. Ces divinités, dans l'architecture complexe de la structure cosmique bouddhique, sont situées au troisième niveau des dieux de méditation, Zenten, eux-mêmes au deuxième niveau du monde du visible ou de la forme, le Shikikai. Vous savez que le bouddhisme divise notre monde local, n'est-ce pas, en trois dimensions. Nous sommes dans la première dimension qui est le Yokkai, la dimension du désir, et nous avons au-dessus la dimension, alors c'est Shikikai Ido, mais là, Ido est à prendre ici dans le sens de forme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de matière, mais qu'il n'y a qu'une sorte de visible dans lequel évoluent des dieux qui sont classés en plusieurs niveaux, et en particulier ce qu'on appelle les dieux de méditation. Et ces Abhasvara, donc, sont à ce niveau-là. Et pourquoi parle-t-il de ces dieux ? C'est que, selon une tradition, le premier habitat divin, ces dieux Kōnten, n'est-ce pas, qui sera préservé de la conflagration universelle finale, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, vous savez, je crois que j'en ai... Je pense en avoir... enfin bon, ça n'a pas beaucoup de... ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin, je crois que j'en parle tout à l'heure. Le monde, notre monde, les lokas, n'est-ce pas, dans le bouddhisme, sont forcément provisoires. Et ils sont, leur vie, leur durée est divisée en quatre étapes. Et il y a une sorte de conflagration finale où tout notre monde phénoménal, c'est une sorte de big crunch, n'est-ce pas, qui tout disparaît dans une espèce d'incendie cosmique. Or, tout ne disparaît pas, c'est simplement notre monde et une partie des premiers niveaux du Shikikai. Le reste est préservé. Et justement, c'est de cet habitat divin préservé de la conflagration universelle d'où redescendront ensuite les êtres. C'est-à-dire que les êtres qui reformeront le monde sont des dieux dégénérés, n'est-ce pas ? Vous le savez, je vous ai déjà expliqué, je pense que les dieux dans le bouddhisme sont les dieux de la mythologie indienne, mais seulement ils ont été dégradés en quelque sorte, ils sont dans les six voies. Et étant dieux dans les six voies, ils ne sont pas éternels, ils vivent très longtemps. Et seulement lorsqu'ils sont arrivés au bout de leur karma, de leur rétribution en tant que dieu, c'est quand même une récompense, il n'y a pas de doute que ce soit une promotion, mais ça arrive à sa fin et la mauvaise part de karma va revenir et ils commencent à se sentir très, très mal, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle les tenningosui, n'est-ce pas ? Les cinq signes de dégénérescence des dieux, je les épargne parce que ils sont un peu physiologiques, mais bref, ils vont retourner dans le cycle des existences. Et à ce moment-là, ils vont devenir humains. Alors, il y a plusieurs façons de décrire ce retour à l'humanité. Mais disons, l'idée est bien là. Les humains sont des dieux dégénérés venant du monde de la forme, n'est-ce pas ? Donc, ce sont eux qui vont faire les... qui vont produire le nouveau monde. Et donc, fidèle à sa méthode de mise en grille parallèle, Tsuki Nakamoto attribue à ces dieux, on peut les considérer comme une classe de dieux, dans la structure bouddhique, la même place que Pangu, n'est-ce pas ? Alors, le Pangu, dans la mythologie chinoise, ou dans le peu qui nous en reste de cette mythologie chinoise, vous savez qu'elle est beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que les Chinois ont l'historiographie chinoise a fait un peu ce qu'auraient fait les Romains selon Dumézil, c'est-à-dire qu'ils ont transformé les dieux en personnalités historiques. Ce sont les rois, les empereurs mythiques, etc. Alors, mais Pangu, lui, dans la mythologie chinoise, émergeant de l'œuf originel au sortir du chaos primordial et créant peu à peu le monde, est considéré soit comme le premier homme, soit comme l'origine du genre humain. Il est en tout cas considéré comme bien antérieur aux trois souverains et cinq empereurs mentionnés plus haut et constitue, comme les dieux à Basvara, l'horizon indispensable de la création. C'est le plus haut que l'on puisse remonter dans l'idée chinoise de la cosmologie. Nous pouvons donc comprendre les raisons qui mènent Nakamoto à les mettre en parallèle. Et nous voyons la conséquence qu'il en tire immédiatement sur le domaine qui l'intéresse principalement. Pour le Shinto même, il faut faire la distinction à ce que le Shinto raconte des dieux, son discours sur les dieux, et la situation objective, pour ainsi dire, un donné irréfutable, de l'âge mythologique. La voix des dieux et l'âge des dieux sont loin de se recouvrir. Pour Nakamoto, il y a quelque chose qui est plus haut encore. Cette voix des dieux, telle qu'elle constitue le Shinto, est en conséquence, elle aussi, une construction provisoire à distinguer de la cosmogonie à proprement parler. Vous voyez la subtilité, n'est-ce pas ? Et c'est une construction provisoire qui se déploie en trois étapes. Selon Nakamoto. Alors, la première forme sous laquelle il a été exposé a nom syncrétisme, Ryobu Shugo, on dit aussi le Ryobu Shinto. Le syncrétisme des deux parties. Doctrine élaborée par la réunion des voies bouddhiques et confucéennes auxquelles on a apporté les retouches appropriées. C'est très subtil, enfin bon, c'est une très bonne observation. Mais, et, mais ça parle d'un Shinto très tardif. Donc, la première étape qu'il distingue est un peu surprenante. Remarquons tout d'abord que Nakamoto ne fait nulle mention d'une période historique où aurait existé un Shinto indépendant, en particulier celui qui est présenté par le texte du Kojiki, qui serait ce qui vient tout de suite à l'idée. Faut-il alors comprendre que l'âge mythologique primordial auquel il fait allusion est celui décrit dans ce texte, mais qu'il est trop factuel pour être considéré comme une doctrine? Le Kojiki serait une relation objective de ce qui s'est passé. Car les trois étapes que décrit Nakamoto sont bien tardives et très postérieures à la rédaction de ces grands textes japonais du 8e siècle, n'est-ce pas? Et nous pouvons voir que la chronologie de ces trois étapes est un peu surprenante, tout comme la définition qu'il donne du Ryobu Shinto, à qui il semble accorder chronologiquement la première place. En principe, le terme, parce qu'il semble prendre Ryobu ici bipartite dans le sens confucianisme et bouddhisme. Mais en principe, le terme de bipartite désigne les deux mandalas. Vous savez que dans l'ésotérisme japonais, il y a le mandala du plan de matrice et le mandala du plan de diamant, le Taizokai et le Kongokai mandala. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est à partir de ces deux mandalas qu'on parle du Shinto bipartite, n'est-ce pas? Elles viennent de l'école ésotérique Shingon, dont le dispositif est appliqué au grand sanctuaire Shinto, et en particulier à celui d'Issei, avec ces deux sanctuaires. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Le fait que Nakamoto donne la priorité chronologique à cette branche s'explique sans doute, enfin c'est moi qui le... parce qu'on l'a fait remonter directement à Kukai lui-même. Donc Kukai, c'est quand même un personnage fondateur dans l'histoire japonaise, c'est pas donc le début du 9e siècle, autour de l'an 800, si vous voulez. Et alors, comme le Ryobu Shinto est prétendument remonté à Kukai, il le prend peut-être comme ça. Donc... En réalité, les textes les plus anciens qui fassent mention de ce Ryobu Shinto, explicitement, datent du XIVe siècle. Et le Ryobu Shinto lui-même n'est qu'un cas particulier du phénomène auquel Chūki n'accorde que la deuxième place, n'est-ce pas? Remarquons aussi qu'il semble considérer que le terme bipartite signifie que cette branche combine bouddhisme et confucianisme, je viens de le dire, ce qui donnerait à penser qu'il met le Suika Shinto dans cette catégorie, j'en reparlerai un peu plus bas. Mouvement encore plus récent puisqu'il ne date que du XVIIe siècle. Mais évidemment, le texte est si allusif qu'il est difficile d'en tirer des conclusions. On comprend qu'il soit plus commode pour lui de mettre les deux doctrines dans l'affaire, confucianisme et bouddhisme. Une chose est certaine, c'est que Nakamoto n'accorde que peu de crédit à cette fabrication. Oui, le Suika Shinto, vous l'avez ici, n'est-ce pas? La seconde branche, selon Nakamoto, est historiquement antérieure, si l'on se fonde sur l'histoire du Shinto, n'est-ce pas? Ce qui est apparu ensuite est appelé enchaînement de l'origine et des traces, n'est-ce pas? Vous voyez ici Honjaku, première ligne, n'est-ce pas? Honjaku Engi. C'était en fait une tentative des bouddhistes, jaloux de l'essor du Shinto à l'époque, de prêcher au grand jour une prétendue voie des dieux, alors qu'en secret, ils le faisaient tomber dans le bouddhisme. C'est « Butsudoe otoshi kometaru mononare ». C'est bien sûr la doctrine de l'assimilation du principiel et du vestigiel, n'est-ce pas, le Honji Suijaku, qui domina toute la religion japonaise jusqu'au mouvement d'éradication du bouddhisme du début de Meiji. Relevons qu'ici, encore, Nakamoto en donne une interprétation très particulière, puisqu'il l'attribue à la jalousie du bouddhisme à l'égard du Shinto. Il décrit ainsi tout ce mouvement, dont nous avons vu la richesse, tant du point de vue de la pensée que de l'expression littéraire à la fin de l'époque de Heian, comme un stratagème bouddhique pour s'assurer la domination sur le Shinto. C'est exactement l'expression « wazato takumite », n'est-ce pas ? Il expédie ensuite d'une phrase un autre aspect important du Shinto de son époque. Ce qui surgit ensuite fut l'école unifiée. Yuitsu Shugen Toyu, qui prôna un Shinto épuré à l'écart du confucianisme comme du bouddhisme. Il s'agit du terme Yuitsu Sōgen, plutôt, excusez-moi, pas Shōgen, c'est Sōgen, bien évidemment, ce qui est plus communément appelé Yuitsu Shinto, dont l'origine remonte à Yoshida Kanetomo, dont je mets les dates ici, haut dignitaire du ministère des Affaires divines du XVe siècle, il était du Jingikan. Ce Yoshida Kanetomo laissa une œuvre considérable qui a été très étudiée par mon ami et collègue François Massé, qui est à la fois une élaboration magico-religieuse du Shinto et un effort de libérer cette religion du bouddhisme comme du confucianisme. Et on relèvera, et ça c'est une chose curieuse que je ne vois pas relevée par ailleurs, que le vocabulaire même utilisé par Nakamoto, ici, dans son esquisse du Shinto, qui est un peu particulier, n'est-ce pas ? Lorsqu'il parle de vous voyez, Honjaku Engi, la première ligne de la citation. Tout à l'heure, la troisième ligne avant la fin, il parle de Ryobu Shugo et Yuitsu Sōgen aussi, qui est une expression un peu bizarre. Eh bien, ces trois expressions, justement, se trouve dans les textes de Yoshida Kanetomo. Donc c'est chez Yoshida Kanetomo qu'il va puiser sa connaissance la source de ses idées sur l'évolution du Shinto de l'époque et sa vision historique. Et c'est cela qui lui sert à justifier sa propre grille critique. Voyez, en faisant ça, il a réussi à mettre le Shinto dans la grille confucianiste bouddhiste. Il retrouve les mêmes écoles, les mêmes variations, les mêmes dépassements, mais seulement c'est dans une époque beaucoup plus restreinte qui est quasiment l'époque d'Edo. Alors après cette brève époque esquisse historique, Nakamoto arrive au courant de son époque. Konosambu no Shinto. Ces trois variantes du Shinto remontent à l'époque médiévale. Minachuko no Kotodomonite. Ils le reconnaissent pas. Plus près de nous, alors, Chuko, n'est-ce pas ? C'est pas initié, donc c'est l'époque médiévale. Il ne remonte pas à l'Antiquité. Mais plus près de nous est apparu le Shinto de la voie royale, Odo Shinto, to you. Cette dernière doctrine appartient au Shinto et n'a pas d'existence à part de celui-ci. Elle soutient que la voie de divinité est la voie des souverains. Ce Shinto dit de la voie royale est une allusion au courant dit union du Shinto et du confucianisme prôné par le néo-confucianiste Hayashi Lazang, que nous avons vu, Yamazaki Ansai, n'est-ce pas ? Qui est ici. Et donc, nous avons avoir du mal à saisir la nuance avec la suite de ce paragraphe où il dit « Certains encore prêchent yoni et inni, c'est-à-dire kage, et dans le yang ils prêchent et dans le yin, c'est-à-dire dans le manifeste et dans le caché. Certains encore prêchent extérieurement la voix des dieux alors qu'il ne s'agit à l'intérieur d'autre chose que du confucianisme. » Il semble bien séparer ce mouvement de l'Odo Shinto, du Shinto de la voie royale de tout à l'heure, mais il faut voir, selon moi, ici une allusion au Suika Shinto dont nous avons parlé plus haut. Enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'amuse, il fait exprès de mettre des distinctions dans des courants qui sont ensemble, qui sont les mêmes, n'est-ce pas, pour justifier sa lecture à la bouddhique, si vous voulez, de l'évolution du Shinto. Mais encore une fois, nous voyons où il veut en venir, je pense que c'est la citation, le quatrième point. Toutes ces doctrines n'existaient bien sûr pas à l'antique époque des dieux, mais on les fait passer pour telles, et elles sont nées les unes des autres en se dépassant. Nos stupides contemporains, Orokanaru Yonoshito. Nos stupides contemporains ne s'en aperçoivent pas et sont persuadés qu'ils ont affaire à la voie véritable. Et là encore, Makoto no Michi. Ils s'entraînent ainsi eux-mêmes à commettre des absurdités, se critiquent mutuellement et se livrent aux polémiques. Il revient ainsi sur son idée de départ. Le Shinto, tel qu'on le connaît à son époque, n'a rien à voir avec l'âge mythologique ou cosmogonique et ne transmet rien de sûr à ce sujet. Ce n'est qu'un enchaînement de théories qui cherchent à se dépasser les unes les autres dans un bouillonnement polémique et futile. Et la conclusion est inévitable. Kenodokunimo, Kidokunimo, là il faut lire Kidokunimo, Shoshinimo, tout cela est pitoyable, ridicule et même franchement risible, ne peut s'empêcher de penser le vieillard. Nous remarquerons qu'après ce chapitre sur le Shinto, Nakamoto ne cherche pas à adoucir le jugement du vieillard en rajoutant une glose marginale, comme nous venons de voir tout à l'heure. On pourrait disserter longuement sur les raisons de cette omission. La plus évidente est que la perspective historique n'est pas la même que pour les deux précédentes doctrines, alors que la grille critique, elle, reste inchangée. Nakamoto semble admettre tacitement, ce que nous retrouvons chez Atsutane, qu'il existe un âge cosmogonique, un âge de la création, forcément commun au monde entier, et dont on retrouve le vestige dans les écrits indiens, chinois et japonais. C'est effectivement l'âge des dieux, mais au sens le plus littéral, pas celui reconstitué. Mais alors que le bouddhisme en Inde et le confucianisme en Chine ont élaboré au cours des siècles leur doctrine, en essayant de partir de cet événement primordial et donc en créant des traditions anciennes et respectables, le Japon n'a suivi le mouvement qu'à un âge récent. Le donné est certes celui des textes fondateurs, mais ceux du 8e siècle, n'est-ce pas ? Mais le Shinto proprement dit, du moins tel que veut l'entendre Nakamoto, est beaucoup plus récent et ne mérite pas en conséquence la considération que vaut aux deux autres doctrines l'ancienneté de leur transmission. Face au Shinto, donc, la réaction qui s'impose est la dérision, et le vieillard ne s'en prive pas. Fait remarquable et bien significatif, donc cette fois, Nakamoto ne cherche pas à atténuer le mordant de sa critique. L'ordre d'exposition que nous avons déjà relevé, allant du bouddhisme au Shinto, montre bien que dans ce libelle du vieillard, c'est la religion propre au Japon qui est la cible principale de la critique de Nakamoto. Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas ? Si on suivait, par exemple, il part quand même du bouddhisme, mais si on suit le mouvement de cette littérature d'exposé des trois doctrines, c'est en général le taoïsme ou le confucianisme. C'est par ordre d'ascendance métaphysique, si vous voulez. Chez Kukai, donc, qui est le prototype au Japon, c'est d'abord le confucianisme qui est la doctrine la plus terre-à-terre, je dirais, la plus concernée par notre monde. Ensuite, le taoïsme, qui est un saut dans une vision métaphysique du corps et de la relation avec l'univers, et puis ensuite le bouddhisme. Mais là c'est le contraire, il est parti du bouddhisme, ensuite le confucianisme et ensuite le Shinto. Donc comme c'est la dernière partie qui est toujours la plus importante, on voit bien que c'est au Shinto qu'il veut arriver, et tout cela n'était que des prémices pour arriver à cela. Donc nous pouvons dire que c'est bien la religion propre au Japon qui est la cible principale de la critique de Nakamoto, à une époque où la philologie nationale, n'est-ce pas, le kokugaku, prend son essor. Il n'allait évidemment pas se faire que des amis, à moins qu'il ne soit possible d'interpréter autrement cette attitude. Nous le verrons plus tard. L'ambiguïté est telle qu'on peut trouver quelque chose d'autre dont je vous parlerai peut-être aujourd'hui. Bien que nous n'en possédions plus le texte, tout indique que le Setsuhei, donc la première œuvre de Nakamoto adolescent, était consacrée aux doctrines confucianistes, nous l'avons dit. Elle était déjà, semble-t-il, puisqu'il y fait référence dans le libelle comme développant plus amplement les arguments pour le moins destructeurs qu'il présente dans ce dernier ouvrage, menée par cet élan critique qui marque les deux textes que nous possédons. Le deuxième ouvrage de Tsuchijō Kōgō, comme le titre l'indique suffisamment, les propos au sortir de la concentration, est consacré au démantèlement de la structure historico-scolastique du bouddhisme. Il est donc normal, si nous assumons que la réflexion de Nakamoto s'est bien concentrée sur les trois doctrines dans leur composition remaniée, où la religion japonaise remplace le taoïsme, que le libelle ait comme thème principal le Shinto lui-même. Cet intérêt explique sans doute l'aspect systématique de sa démonstration, que nous voyons d'ailleurs se développer sous nos yeux dans les différentes parties bien délimitées du libelle. Et c'est bien dans cette avant-dernière partie, du genre tripartite que nous voyons se dessiner la pratique la plus fondamentale qui s'adresse au Shinto. En effet, alors que nous avons vu dans les critiques précédentes que l'analyse de Nakamoto, certes déjà systématique dans la grille qu'il élabore, portait avant tout sur des critères d'histoire des doctrines, n'est-ce pas ? Chaque fondateur de religion ou de doctrine totalisante, disons, veut d'abord dépasser les contradictions doctrinales de cette époque, où s'affrontent des écoles irréconciliables. Puis la religion ou doctrine, une fois fondée, celle-ci va évoluer au fil des efforts des successeurs du fondateur, qui innoveront à intervalles plus ou moins réguliers en présentant leurs innovations comme des retours à la pureté doctrinale du fondateur, n'est-ce pas, le kagotsuku. Cela est somme toute acceptable comme base de discussion sur l'évolution des religions. Et si nous nous plaçons au XVIIIe siècle dans une perspective transversale, Orient-Occident, on pourrait imaginer qu'un dialogue aurait été tout à fait possible de ce point de vue entre Nakamoto et les Européens qui commençaient à réfléchir sur l'histoire comparée des religions. Et ce dialogue aurait certainement pu se poursuivre au XIXe siècle. Mais dans cette partie, Nakamoto lui-même innove en faisant intervenir une dimension à notre sens très originale, la dimension mythologique ou cosmogonique. Nous devons tout d'abord y voir une extension de son esprit de système, mais une extension orientée vers un but bien défini. Cela se voit dans la façon même dont il uniformise en quelque sorte la dimension mythologique des trois doctrines, alors qu'ils sont en réalité profondément différentes dans la place qu'ils accordent à cette religion, à cette dimension. C'est donc au prix d'une distorsion évidemment volontaire qu'il peut les mettre sur le même plan. Comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, fait très significatif, Nakamoto commence son paradigme par le bouddhisme, alors que c'est celle des trois doctrines où la cosmogonie et la théogonie en tant que telles n'ont qu'une place secondaire dans l'édifice monastique, dans l'édifice scolastique. Évidemment, nous ne pouvons que renvoyer aussi aux travaux de Yanaga Nobumi, qui, lui, a fait une démarche tout à fait différente. Il a fait un livre monumental en deux gros volumes qu'il appelle justement « Bukkyo Shinwa », la mythologie bouddhique, mais où il essaye de reconstituer un monde mythologique à l'intérieur du bouddhisme. Ici, c'est tout à fait différent. Il s'agit d'ailleurs, comme le remarque presque Nakamoto lui-même, d'un héritage antérieur qui n'est pas partie intégrante de la doctrine, mais constitue la vision du monde pan-indienne, n'est-ce pas ? C'est ce que je viens de vous dire. Le bouddhisme est l'héritier de cette vision, il l'a pas inventé. Mais surtout, dans le bouddhisme, la naissance du monde, des dieux et des hommes ne sont pas les événements fondateurs décisifs qu'ils constituent dans les autres religions, puisqu'ils ne sont qu'une étape infiniment répétée, je vous l'ai dit, dans le cycle tout aussi infini des quatre stages de l'existence du monde. Je vous l'ai mis ici, n'est-ce pas ? Shigo, littéralement, les quatre âges de l'univers, Jogo, Jugo, Ego, Kugo, n'est-ce pas ? C'est-à-dire l'étape de la formation, ce qui correspond à peu près à nos cosmogonies. Ensuite, Jugo, la période où l'univers est stabilisé, et donc c'est celui que nous vivons. Et puis arrive l'âge de la fin, Ego, n'est-ce pas, l'âge de la destruction. Et après, Kugo, un âge du vide, n'est-ce pas, où vous avez une sorte de grande période cosmique intermédiaire où il n'y a plus rien, il n'y a que les grands dieux qui sommeillent d'ailleurs. Mais surtout dans le bouddhisme, alors donc le moteur de cette évolution, donc de cette évolution cosmogonique, est la puissance de l'acte du karma élaboré au long des âges cosmiques par les humains eux-mêmes. Alors dans le bouddhisme, évidemment, il n'y a plus rien. Les dieux eux-mêmes ne sont dans une autre dimension. Les dieux ne jouent dans cette évolution qu'un rôle secondaire, à commencer par Brahma, le dieu suprême des doctrines indiennes traditionnelles, dont la nature est adaptée à la doctrine bouddhique en étant profondément modifiée. Vous savez que parfois, on tourne Brahma en dérision, puisqu'il est le premier à la création du monde et il est le dernier à la destruction du monde. Donc, il se croit le dieu créateur, ce qu'il n'est absolument pas dans le bouddhisme. La véritable cosmogonie bouddhique, donc, ne relève que du bouddhisme lui-même et a comme support ontologique les Bouddhas et en particulier dans le bouddhisme japonais qui est le nôtre, le grand Bouddha solaire, n'est-ce pas, Dainichi Nyorai, hein, qui est le Bouddha de l'ésotérisme et qui va être celui qui est concerné par le syncrétisme shinto-bouddhique. Et je me permets de vous rappeler, enfin c'est quelque chose qui est bien connu, mais cette idée qui a fait vraiment florès à partir de la fin de l'époque de Heian au Japon, n'est-ce pas, Dainihon Koku, le grand royaume du Japon, le grand empire du Japon, qui est lu Dainichi no Hongoku, le royaume originel du Bouddha Mahavairochana, n'est-ce pas, c'est de l'appropriation où je ne m'y connais pas, n'est-ce pas, donc qui montre bien l'importance du bouddhisme dans ces idées même pré-nationalistes. Le fondement du monde dans le bouddhisme est le plan de la loi, le Hokkai, qui est le lieu de résidence métaphysique de Dainichi. La cosmogonie invoquée par Nakamoto est donc mineure dans le bouddhisme et n'explique que les vicissitudes de nos plans d'existence. Donc on ne peut vraiment pas les mettre sur le même plan. Il est d'autant plus intéressant qu'il le prenne comme premier cas de son paradigme, auquel il va joindre le mythe chinois et le mythe japonais. Remarquons d'ailleurs que le nom de Panggu, dans la mythologie chinoise, la créature primordiale, l'homme primordial, si vous voulez, en Chine, apparaît relativement tardivement dans la littérature chinoise. Il semble qu'on ne le connaisse pas avant le IIIe siècle après Jésus-Christ, n'est-ce pas, à la fin des Han, ce qui est quand même... et qu'il n'est pas dans les textes sur les trois souverains et cinq empereurs, bien sûr, ni dans les mythes de Fuxi et Nuwa, qui sont les mythes les plus anciens que l'on puisse retrouver en Chine. Et il est évident que le mythe de Panggu, Banco en japonais, n'est-ce pas, dont l'histoire de la composition du corps menant à la création du monde et de l'humanité peut être reliée au mythe de la purification du corps de Izanagi, n'est-ce pas, Izanagi et Izanami, vous connaissez tous l'histoire. Donc, lorsque Izanagi se nettoie de la souillure qu'il a reçu en descendant dans le royaume des morts pour essayer de sauver sa parèdre, Izanami, eh bien, à chaque étape de cette purification, il donne un degré d'existence supplémentaire au monde. Et Panko, comme Banko en chinois, en japonais, et comme Izanagi, par exemple, le soleil et la lune sont issus des yeux de Panko et du nettoyage des yeux de Izanagi. Alors certes, les deux mythes ne sont pas superposables, ne serait-ce que parce que Izanagi et Izanami, dont je viens de vous parler, appartiennent, eux, à la septième génération des dieux, et que Panggu ne se rattache pas à une ascendance. Mais les similarités sont évidentes entre les deux. Je peux ajouter, alors, enfin, c'est une histoire passionnante de savoir d'où vient le mythe de Panggu, et je pense qu'une idée très intéressante qui a été mise par plusieurs chercheurs est qu'elle n'est pas chinoise à l'origine, mais qu'elle est à rechercher dans les populations minoritaires, comme on dirait maintenant, du sud de la Chine, n'est-ce pas ? Et on peut toujours rêver, nous sommes à la fin du cours, comme vous le savez, mon collègue Alexandre Vovin pense que le japonais, la langue japonaise, provient justement de ces territoires du sud de la Chine, qui seraient remontés peu à peu vers le nord, mais en suivant la côte. C'est-à-dire qu'on retrouverait là, si on admet que Panggu vient de mythologie de peuples anciens non chinois du sud de la Chine, eh bien on pourrait retrouver effectivement une possible origine commune. Mais enfin, je vous ai déjà parlé des théories tout à fait à la fois extraordinairement érudites et fondées en recherche de Michael Witzel, n'est-ce pas, sur la mythologie universelle. C'est un texte qui est paru il y a une quinzaine d'années, mais qui a fait beaucoup parler. Et alors voilà, on aurait un élément à étudier dans ce sens, mais bon, ça sera pour une autre fois. Une chose cependant est sûre, dans le bouddhisme comme dans le confucianisme, le mythe de la création des dieux et des hommes n'ont guère d'importance. Le confucianisme, je parle. Comme nous l'avons dit, l'intérêt majeur du bouddhisme est ailleurs. Pour le confucianisme, on connaît la parole de Confucius je vous la donne en conclusion, sur le monde des esprits et des dieux. Son disciple Jilu demande la façon dont il faut kishin nitsukau, c'est-à-dire rendre culte aux dieux ou s'occuper des dieux. C'est un mot très vague, mais là, je pense que c'est rendre un culte aux dieux. Et le maître répond, déjà que je ne peux pas m'occuper des hommes, n'est-ce pas, comment voulez-vous que je m'occupe des... Alors, il reprend l'expression, mais en la raccourcissant. Vous voyez qu'ici, nous avons démons et divinités. Démons et divinités, il n'utilise que démons. Bon, il faut certainement comprendre comme abréviation de Kishin, donc on peut traduire par les dieux, mais le texte dit des démons. Donc, je ne peux déjà pas m'occuper des hommes, comment pourrais-je m'occuper des dieux ? Donc, nous en sommes tout à fait dans une autre... Et vous voyez que la mythologie n'a aucun rapport avec le Confucius de cette époque, il en aura beaucoup plus tard. Mais nous comprenons bien que ces prémices sont orientées donc vers la troisième doctrine, le Shinto, la voie des dieux, dont le fondement même est précisément les dieux. Et en montrant le même décalage qu'avec les deux premières doctrines, Tsuki sape les bases du Shinto, du moins du Shinto de son époque. Restriction importante, qui ne saurait avoir l'autorité nécessaire pour parler des dieux, car il s'est développé historiquement bien après la période primordiale. Alors, vous voyez que nous ne sommes pas tout à fait dans le Kokugaku, là, ni dans les idées de Norinaga, ni celles d'Atsutane que nous verrons plus tard. Alors, nous en terminerons la semaine prochaine avec le libelle du vieillard, en découvrant un dernier pan de l'esprit critique et sarcastique de Nakamoto. Pour l'instant, je vous remercie de votre attention et je merci beaucoup et à la semaine prochaine.